Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table, une figure de la vie intellectuelle. À 98 ans, le sociologue Edgar Morin nous offre une traversée intellectuelle du siècle dans un livre de souvenirs. Une vie jalonnée de combats et marquée par beaucoup de convictions. Le sociologue nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, and the winner is, ou plutôt the winners, lauréate cet été d'un Eisner, la plus prestigieuse récompense en bande dessinée, l'auteur des Culottés a conquis et séduit l'Amérique. Si fière, a-t-elle dit, on a craint un instant qu'elle choisisse de rester au pays des comics, mais non, l'ex-blogueuse, aujourd'hui auteur de bande dessinée, illustratrice et réalisatrice, et de retour, Pénélope Bagieux est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Les Culottés voyagent et se dédoublent déjà deux volumes traduits dans une quinzaine de pays, publiés en France chez Gallimard et après la bande dessinée, un dessin animé est en préparation pour France 5 pour redonner vie à ses personnages. Pénélope Bagieux, bonjour.
Bonjour.
Le culot, aujourd'hui, où le placez-vous ?
Le culot ? Je pense que faire une bande dessinée qui est ouvertement féministe à un moment où c'est encore considéré comme un gros mot par plein de gens, ça m'a demandé un peu de, en tout cas, de détermination.
De culot, voilà. C'est une valeur féminine pour vous, le culot ?
Oui, parce qu'il nous en faut quand même deux fois plus hein, pour faire la même chose, c'est-à-dire pour trouver notre place, pour être... prise au sérieux, pour ne pas être en permanence ramenée au fait qu'on est des femmes. Il faut se lever assez déterminée et assez culottée le matin. Oui.
Vous étiez, vous, l'héroïne de votre blog, et puis quoi ? Vous avez trouvé que votre vie, à vous, était fascinante, mais peut-être pas tout le temps ou tout à fait si fascinante pour décider de vous immerger et de vous intéresser à d'autres vies que la vôtre, des vies réelles, pas que des vies imaginées, comme vous l'avez fait dans d'autres bandes dessinées. Avec ces culottés, vous plongez vraiment dans le destin et la vie de toutes ces femmes, une trentaine que vous portraitisez.
Je parle toujours de moi, hein, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que plus on...
De vous à travers elles.
Oui, bien sûr, mais comme tout le monde, quand on raconte une histoire, on parle de soi. Avec le temps, on apprend à le faire de manière un peu plus déguisée, de manière plus ou moins habile, mais que ce soit un personnage de fiction ou une biographie, ce qu'on va chercher chez un personnage qui nous intéresse, de toute façon, c'est des passerelles avec soi et avec sa façon d'affronter les choses. Et du coup, ces 30 femmes dont je parle, avec des masques et des époques un peu différentes, ce qui a créé un lien entre elle et moi pour que j'ai envie de parler d'elle, c'est évidemment ce que je retrouve de moi dedans. Donc c'est toujours moi.
Alors le premier volume, par exemple, des Culottés s'ouvrait sur le portrait de la femme à barbe. Je ne vais pas vous demander si vous aviez une barbe, si vous l'auriez laissée pousser ou si vous l'auriez rasée. L'époque a par ailleurs changé. Mais quelle est votre barbe à vous ? Cette chose de vous-même que vous avez acceptée, du coup assumée,
alors,
avec le temps.
Mais alors, déjà, je pense que moi, j'aurais pas eu le courage de la garder, cette barbe, comme elle a fait Clémentine Delay, et particulièrement à cette époque-là où son destin tout tracé, c'était d'être dans une cage, dans un cirque, et qu'elle a choisi de ne pas être l'objet qu'on montre, mais de se montrer elle-même et de devenir un top modèle à l'époque avec sa barbe. Donc, je pense que même aujourd'hui, j'aurais pas forcément ce courage. Et peut-être que moi, ma barbe que j'ai choisie, c'est de me dire que cette occupation qui est devenue mon métier, que je n'ai jamais vu être présentée comme quelque chose qui était accessible aux femmes, déjà qui n'était pas accessible tout court parce qu'il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était un métier, et que le fait que j'aime raconter des histoires et que j'aime dessiner, je pouvais en faire quelque chose et ne pas forcément essayer de le tordre en me disant bon, je vais faire ça à côté, et je me suis dit que j'allais quand même donner sa chance à cette passion que j'avais et faire comme ça, voilà.
Elles ont défié les lois du genre, elles ont en commun de n'avoir fait que ce qu'elles voulaient, comme vous les définissez, Pénélope Bagieux. Elles sont admirables ou elles sont exemplaires, elles sont en tout cas les culottées en bande dessinée ou animée. Elles sont femmes à barbe, gardiennes de phare, reines, exploratrices ou encore nageuses hors pair, à l'image de Annette Kellerman, femme sirène, extrait.
Australie, 1895. La petite Annette Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner.
On va essayer quelque chose. Oh. Nage, Annette, nage.
Et ça marche! À 15 ans, Annette est guérie. Et a trois passions dans la vie. Nager, nager, nager. Et sinon, j'aime la natation. Ça tombe bien, c'est une très bonne nageuse. Du coup, elle se lance des défis. Comme d'autres traversent la rue, Annette traverse la Manche. Enfin, elle essaye. J'ai pas réussi, mais j'ai dépassé tous ces hommes. Même avec ça. Je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme. J'adore mettre en scène mes performances. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut nager là-dedans.
La nageuse sirène Annette Kellerman, elle a aidé les femmes à libérer leur corps. Pénélope Bagieux, vous, vous écrivez, vous dessinez. Et pour la télé, vous intervenez directement dans le choix des voix qui vont incarner aussi ces héroïnes.
Alors, non, pas du tout. Là, on entendait la voix de Cécile de France, qui donc est la voix de toutes les culottées dans la série animée qui se prépare pour début 2020. Moi, je ne suis pas impliquée dans la création de la série. En revanche, les productrices et les réalisatrices de tout ce projet avaient quand même à cœur d'avoir au moins mon avis. Donc, j'ai observé, plus que validé, mais observé toutes les étapes. Mais comme une spectatrice, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que je reçois quelque chose, je glousse et je tape des mains. Je dis « Ah, c'est super !» Mais j'interviens pas du tout.
Là, dans l'extrait qu'on entendait, il y a une grande fidélité par rapport au texte aussi de la bande dessinée. Ça, c'était une condition ?
Non. Alors, en fait, il y a une fidélité, mais c'est là où c'est vraiment un travail monumental d'adapter en animation. C'est qu'il faut revoir complètement la narration. On raconte pas du tout une histoire de la même manière quand on ajoute du son, du mouvement, du jeu d'acteur. Donc, en fait, en vrai, elles ont dû tout réécrire. C'est-à-dire qu'elles ont pris les mêmes... Lego, et elles ont tout cassé et refait autre chose avec. Donc c'est un vrai, vrai... Les personnes qui écrivent la série ont vraiment eu beaucoup de travail. Donc c'est fidèle dans le sens où les faits sont les mêmes et je m'y reconnais visuellement et je trouve que le ton y est. Et ça passe pas à côté de l'idée que j'avais envie de transmettre, mais c'est vraiment autre chose.
C'est un autre métier, vous aviez pas envie de vous lancer là-dedans ?
Non, pas du tout. Moi j'avais fait ça comme étude, j'avais appris à faire du cinéma d'animation et ça m'a confirmer que vraiment c'est pas ce que je voulais faire dans la vie, même si ça m'a beaucoup servi après tous les jours pour faire de la bande dessinée. Ça me sert d'avoir appris à faire de l'animation parce que c'est quand même des narrations cousines éloignées, on va dire. Mais ça fait que j'ai un œil assez curieux sur, je pense, plus que si j'avais pas ce bagage-là quand on adapte mon travail. Ouais.
Elle va donc se tailler un maillot sur mesure, cette Annette Kellerman, plus près du corps, avant de couper les jambes de son maillot. L'indécence d'Annette va trop loin pour la police américaine, écrivez-vous, qui l'arrête en 1907 sur une plage du Massachusetts. On voit dans cette séquence Annette Kellerman arrêtée par deux policiers qui jettent un voile discret sur ce corps dans cette séquence de votre bande dessinée, Pénélope Bagieux. Vous avez dû modifier certains dessins pour le public américain, pour que les culottés traversent l'Atlantique et soient publié là-bas. Est-ce qu'un siècle après, c'est un pays qui reste très pudique ?
Et alors, pas pour qu'elle soit publiée, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que mon éditeur américain, je pense a raison, d'ailleurs ça s'est vérifié, voulait destiner cette bande dessinée à un public jeune, d'adolescents, voire de jeunes adolescents. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, pour qu'un livre atterrisse dans les mains des enfants et des ados, eh ben, il ne faut qu'il n'y ait pas de nudité. Et le terme nudité englobe des choses très très larges. Donc,
c'est bien parce que la nudité, il ne la voit sûrement pas à la télé, ni sur le portable.
Non, bien sûr, ni la violence d'aucune forme d'ailleurs. Ouais. Ça, ce n'est pas un problème. Si j'avais dessiné des gens qui se font exploser la cervelle, ce serait passé comme une lettre à la poste. Mais un téton, c'est problématique. Et du coup, il a fallu effectivement que je modifie certaines choses. Il y a un portrait de Josephine Baker dans les culottés. Bon, ben voilà, la Josephine Baker des culottés américaines, elle n'est pas seins nus.
Elle va partir habillée. Alors, c'est
voilà. Ça. Ouais. Ce genre de choses, bon, je m'y suis faite.
On s'y fait.
Bon, on s'y fait parce que ça n'empêche pas les gens d'avoir quand même accès à ce qu'ils veulent, de toute façon. Je pense que ça a presque un effet contre-productif. Et puis on a nos petites obsessions en France aussi. Hein. Voilà.
C'est vrai, lesquelles ?
Alors, on est peut-être moins regardant sur la pudeur, et encore, finalement, on a quand même les mêmes médias que les médias américains, et on peut quand même pas dessiner un téton non plus sur Instagram en France, et pas de territorialité pour la pudeur, donc on est quand même tous soumis aux mêmes contraintes débiles de pudeur mal placée.
Vous avez reçu ce prix, ce Eisner Award au Comic-Con de San Diego. C'est le grand festival, les grandes rencontres de la pop culture aux États-Unis. Ça, c'est un autre visage de l'Amérique que vous avez vu là-bas. Festival.
Ah oui, j'avais envie de le voir au moins une fois parce que je n'ai jamais allé au Comic-Con de San Diego, qui est effectivement le plus grand du monde. Donc il faut imaginer que c'est une ville de Californie qui, pendant 4 jours, ne vit que aux couleurs de la pop culture, c'est-à-dire que tous les serveurs de tous les restaurants, les chauffeurs de taxi, tout le monde est déguisé. Enfin, c'est quand même vraiment un truc à voir une fois. Et puis à la fin de ce festival, donc ce qui est plus qu'un festival, qui est vraiment une convention, donc il y a les Eisner qui rythment un peu l'année de la bande dessinée précédente, puisque c'est pour les livres publiés l'année d'avant. Qui est une rencontre professionnelle assez C'est assez impressionnant aussi, parce que vraiment tous les acteurs des comics sont là. Donc
C'était la 50e édition cette année, et c'est un rendez-vous qui a quand même considérablement évolué aussi depuis ses débuts, qui était d'abord surtout concentré, limité à la bande dessinée, qui s'est ouvert au cinéma, qui s'est ouvert aussi aux séries. On va revenir aux origines avec la voix de l'Américain, Will Eisner, le père du roman graphique. Écoutez.
I wasn't really so much interested in creating...
Je n'étais pas très intéressé par l'idée de créer un héros complètement démesuré, à l'image de Superman, de Batman ou de n'importe quel autre super-héros. Cela ne m'intéressait pas tellement. J'étais plus intéressé par l'idée de faire des nouvelles, raconter des histoires courtes, proposer un point de vue. Je suis surtout intéressé par la condition humaine, et ça a toujours été le cas. Et je prétends être dans une position où je suis capable d'écrire grâce à mon médium, qui est l'art séquentiel et qui fonctionne. J'ai choisi le nom d'art séquentiel à défaut d'avoir trouvé mieux. Depuis mes premiers pas dans les comics, j'ai toujours été embêté par l'usage du terme « comics ». Comics, c'est un abus de langage, car les comics ne devraient pas être comiques. Ils ne sont pas tenus de l'être, comme le sont les cartoons. Et il se trouve que c'est un moyen d'expression tout aussi respectable que le sont la littérature et le cinéma.
Voilà, Will Eisner qui trouvait plus juste de parler d'art séquentiel, parce que comics, ça fait trop comique. Parce que certains le disent aussi en France, bande dessinée, ça a quelque chose de trop enfantin. Et on préfère parler selon les formats de romans graphiques. Vous êtes tatillonne aussi sur les genres?
Non, pas du tout. Je me définis comme une lectrice de romans graphiques, curieusement. Mais je bondirais pas de ma chaise si on me dit « Ah, tu fais des BD ?» Ou même d'ailleurs, tu fais des BD pour les enfants. En fait, c'est quand même un art populaire, bande dessinée. C'est vraiment entre les mains de tout le monde. Je comprends la démarche, mais je trouve que ça interpelle quand même de vouloir absolument faire des catégories avec plus ou moins de noblesse au sein de la bande dessinée. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux et on a quelque chose à se partager qui est quand même pas si conséquent que ça. Donc, on peut être tous dans le même bateau.
Voilà, et c'est quand même ce monsieur Eisner qui donne aujourd'hui aussi à beaucoup d'auteurs leur titre de noblesse en les consacrant avec ce prix qui porte son nom. C'est un genre quand même sous contrainte. Lui, il en avait fait un livre où il décryptait ce mécanisme narratif de la bande dessinée, ce fameux art séquentiel, hein, comme il l'expliquait. Vous avez l'impression de vous contraindre dans la manière de réaliser ces différents formats?
Alors, j'ai pas essayé d'autres façons de raconter des histoires, mais à chaque fois que l'idée m'effleure, je me dis « Ah, j'écrirais bien un livre en prose », je me sens paralysée par l'absence de cet éventail extraordinaire qu'est la bande dessinée, qui permet de tout raconter. Pour moi, c'est vraiment la façon idéale de raconter une histoire. C'est pas une association de textes et d'images, c'est vraiment quelque chose d'autre. Il y a tellement de choses qu'on dit de manière plus forte avec une image muette, et à la fois d'avoir la possibilité de faire des dialogues sur lesquels on passe du temps, le tout avec pas de budget. C'est-à-dire que je peux faire une explosion et une foule et... Bon, c'est du temps, mais ça me coûte pas d'argent, c'est pas un film. C'est-à-dire que je suis limitée par rien à part mon courage et le temps que je suis prête à passer sur une case. Mais c'est le plus intuitif, je trouve, comme façon de raconter une histoire. On a toute la liberté, on est metteur en scène, on est acteur, on fait tout. Quand on est un peu dans le contrôle, ce qui est mon cas, c'est vraiment la façon la plus... simple de raconter une histoire.
Oui, avec d'autres formats, il pourrait y avoir cette peur du vide, d'une certaine manière.
Oui, et puis de toute façon, il y a aussi beaucoup moins de pression avec une bande dessinée. Enfin, moi, j'ai des amis qui font des films. Quelle angoisse de se dire que le premier mercredi de sortie de son film, on sait si sa carrière s'arrête ou pas. Enfin, on est quand même des inconnus dans la bande dessinée. On fait les choses un peu dans notre coin et on a assez peu de pression. Après, c'est aussi un métier où c'est plus difficile de vivre de ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de difficultés dans le métier de la bande dessinée. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'écriture pure, on est tout seul, déjà, ce qui est moi et mon rêve, travailler seul quand même. On peut travailler chez soi si on a envie, on n'est pas obligé de voir des gens. Et en plus de ça, on raconte exactement ce qu'on veut, comme on veut. Donc je vois aucune barrière dans la narration en bande dessinée.
2019, dans une catégorie auteur étranger, traduit en version américaine en tout cas, vous remportez donc ce prix au Comic-Con de San Diego aux États-Unis. C'est un peu comme le festival de la bande dessinée d'Angoulême pour vous aujourd'hui. Les femmes ont dû là-bas, on le sait aussi, hein, jouer des coudes pour se faire une place. Elles ont marqué, notamment l'année dernière, je crois que c'était avec Wonder Woman, qui mettait à la fois une héroïne à l'écran et un film qui était réalisé aussi par une femme. Vous avez le sentiment que ici, chez nous ou là-bas, les choses sont quand même en train de bouger?
Ah oui, cette année, vraiment, on voit les fruits de tout ce qui a été fait pour essayer de mettre en place une parité dans les institutions, c'est-à-dire on peut pas créer de parité artistique, mais changer le système et les institutions pour favoriser la parité, ce qui a été fait à Angoulême à la demande du collectif des créatrices de bande dessinée, qui était d'avoir la parité des jurys. Et cette année, quasiment tous les prix du palmarès d'Angoulême étaient remportés par des autrices, donc y compris le Grand Prix, même si ça dépend pas d'un jury. Le livre d'Émile Ferris, moi ce que j'aime, c'est Les Monstres, qui était vraiment la meilleure bande dessinée de l'année. Il n'y avait pas du tout à finaler là-dessus. Et puis le palmarès des Eisner aussi, cette année, qui était extrêmement féminin. Quasiment tous les prix les plus importants des Eisner étaient aussi remportés par des femmes cette année. Donc on peut pas parler d'un épiphénomène ou d'un effet de mode. C'est que quand même, les femmes dans la bande dessinée ont toujours été là. Elles viennent pas d'arriver, mais on s'est enfin décidé à les remarquer dans un coin de la pièce. Donc
voilà, il y a une part de visibilité qui est acquise aujourd'hui. Mais vous qui faites partie de ce collectif des créatrices de bande dessinée qui regroupe des autrices, des dessinatrices et des coloristes de bande dessinée, vous diriez que le combat, il est où aujourd'hui? Il est de susciter encore des vocations, il est surtout de travailler aussi sur la représentation des femmes dans la bande dessinée?
Oui, les deux, et plus que ça d'ailleurs, mais c'est très important de montrer des modèles, c'est-à-dire de montrer non seulement des modèles de personnages pour que des lecteurs et des lectrices se projettent dedans, mais aussi de montrer des modèles d'écriture et de dire à... Enfin, moi, quand j'avais 10 ans, je ne connaissais pas de femmes qui faisaient de bande dessinée. Pour moi, la BD, c'était Tintin ou c'était Pilote. Et voilà, c'était un métier d'homme. Donc, c'est quand même une génération qui va grandir en voyant beaucoup d'autrices, beaucoup de dessinatrices et se dire pourquoi pas même être éditrice. Ça va susciter évidemment des vocations. Et puis c'est vrai que c'est tellement important d'avoir des personnages féminins bien pensés, bien écrits, et écrits par des femmes, des personnages crédibles avec des psychologies un peu plus subtiles que être un faire-valoir ou être une princesse à délivrer. Donc on est sorti de ça bien sûr, mais il faut une richesse de personnages et de propos qui est amenée évidemment par tout le sang neuf que représentent ces femmes qui vont accéder à l'écriture de la bande dessinée. Donc de toute façon les choses vont naturellement... C'est pas possible d'empêcher que ça arrive, le fait que ça s'ouvre. Heureusement.
Midi 20 sur France Culture. L'auteur des culottés, Pénélope Bagieu, prix Eisner cet été et sur France Culture jusqu'à midi et demi.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Pénélope Bagieux avec nous à l'occasion donc de la consécration de ces culottés, 30 portraits de femmes en deux volumes, des femmes qui ont en commun de n'avoir fait que ce qu'elles voulaient, telles que Pénélope Bagieux les définit. Vous êtes, vous vous dites en tout cas féministe à travers ces combats que vous portez, à travers ce dessin aussi que vous tracez, féministe, un engagement parfois lourd à porter pour l'écrivaine militante Thérèse Claire, décédée il y a 3 ans, mais immortalisée dans le tome 2 de vos culottés.
Quelquefois, j'ai des soupçons sur moi-même, je me sens prise la main dans le sac. On n'est jamais tout à fait guéri d'une enfance conformiste, d'une vie de jeune femme conformiste et du regard de la société qui n'est pas tendre pour les femmes et pour les féministes. Les féministes, ce sont presque des bêtes sauvages. Ce sont des folles, des méchantes, des pas belles. Les féministes, on les ridiculise. C'est le ridicule, l'ironie, c'est l'ingrédient qui tue, effectivement. Et tout le monde sait très bien s'en servir, y compris les femmes.
Voilà, Thérèse Claire, dans l'émission Hors-Champ en 2014, là aussi on sent que les choses sont quand même un peu bougées, même si cette étiquette, ce mot de féministe, quand on le revendiquait il y a encore une dizaine d'années, était quand même perçu un peu comme un stigmate. Par moments, vous avez juste envie aussi de redevenir, Pénélope Bagieux, une femme comme les autres, sans combat, sans colère.
Alors, je ne suis pas sûre que le mot soit moins stigmatisé aujourd'hui. Je pense que ça reste un mot magique qui déclenche immédiatement le ridicule, comme dit Thérèse Claire, ou l'intimidation, ou la haine. C'est vraiment toujours un mot qui a le pouvoir magique d'agiter les foules. C'est terrible, on le constate sur les réseaux sociaux. Ça, notamment, ça explique la fatigue, comme elle dit, ça explique la fatigue des militantes. Il y a beaucoup de féministes qui raccrochent les gants et qui sont épuisées, parce que c'est déjà parce qu'on voit assez peu de progrès, je trouve, quand même, c'est très lent, et que c'est un sacerdoce dans le sens où on peut pas dire voilà, pendant une heure, je mets ça de côté, parce qu'on c'est pas, on se dit pas, allez, aujourd'hui je vais me battre contre le patriarcat, en fait, ça marche pas comme ça, c'est que la vie nous rappelle toutes les minutes que on peut pas se défaire de ça, donc c'est pour toute la vie, c'est tous les jours comme ça, donc c'est pas un métier, en fait, voilà. Et pourtant, je ne me mets pas du tout dans la même catégorie que les militantes qui sont sur le terrain, qui prennent des risques. Moi, je fais des dessins, je suis au chaud. Mais je peux comprendre que, j'en sais rien, quand on travaille dans un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences, que parfois on ait envie de s'arracher les yeux de la tête et de se dire à quoi bon, ça, rien n'avance, en fait. Il n'y a pas d'aide politique en face. Les mentalités évoluent, mais pas très très vite quand même. C'est vrai que c'est épuisant.
Il y a un travail à faire sur les esprits, mais aussi sur les corps, et c'est ce à quoi vous participez, vous, avec vos dessins, Pénélope Bagieux. On sent que là aussi, c'est une démarche qui est volontaire. Vos héroïnes sont souvent hors format, et on pense bien sûr à celle de California Dreamin' en 2015. Dans ce roman graphique et polyphonique, vous racontiez l'histoire de Mama Cass, la chanteuse du groupe 60s, les Mamas and Papas, qui est morte quasi à l'âge du Christ, et dont le tube California Dreamin' avait fait le tour du monde. En voici un autre. Extrait plus personnel, Creaky Alley. John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Saul and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In the coffee house, Sebastian sat, and after every number, they passed the hat. McQueen and McGuire's just a getting higher in L. And no one's getting fat except Mama Cass. Dolly said, Danny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Danny says, Dolly, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you? So Danny and Sebastian sat at the night out. And after every number, they passed the hat. McQueen and McGuire still are getting higher. And no one's getting fat except Mama Cass. No one's getting fat excepting Mama Cass. À chaque fin de couplet, ces mots, personne ne grossit à part Mama Cass. Qu'est-ce que sa silhouette, son apparence, sa corpulence nous disait d'elle aussi, Pénélope Bagieux.
Elle est incroyable, cette chanson, Criqui Alley, parce qu'elle raconte la genèse des Mamas and the Papas et on parle de tout. Et à chaque fois qu'on parle de caste, c'est pour rappeler qu'elle est grosse, comme si c'était ça son personnage dans ce groupe. Alors qu'à l'évidence, et on l'entend là, sa présence dans le groupe, c'est qu'elle est la voix de ce groupe. On reconnaît sa voix à elle tout de suite, c'est ses chœurs à elle qui apportent la chanson California Dreamin' sans les chœurs de Mama Cass. C'est une balade pop un peu chiante, quoi. Enfin, vraiment, elle est l'âme du groupe. Et à l'époque, alors qu'on pourrait penser qu'avant les clips, avant les vidéos, c'était beaucoup moins important pour une chanteuse d'avoir un physique comme il faut. Mais pas du tout. Déjà à l'époque, le fait qu'elle soit grosse, c'était l'enjeu. On parlait que de ça. Alors que c'est une chanteuse extraordinaire. Et voilà, la chanson parle quand même de ça.
Et elle a assumé ou ça l'a blessée ?
J'imagine que c'était un mélange des deux et qu'elle était à la fois, elle n'avait pas le choix, elle était comme elle était. Et puis je pense qu'elle n'en était pas, c'était pas une souffrance, à part pour l'espèce de harcèlement qu'elle vivait, puisqu'elle a des contrats avec des maisons de disques qui lui sont passés sous le nez pour ça. On lui a mis des clauses dans ses contrats qui signifient qu'elle devait maigrir pour que les contrats soient signés. Et puis on a voulu la virer de son propre groupe parce qu'elle ne faisait pas jolie sur la photo. Donc. Un groupe qui aurait certainement pas existé sans elle. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'époque tendre avec le physique des femmes, hein, globalement. Ça n'a pas tellement changé. Et puis, c'était déjà pas génial à l'époque.
Ouais, c'était pourtant une personnalité assez excentrique, en tout cas sur scène, qui s'est battue et vous lui rendez justice là-dessus pour avoir, avec ce physique hors norme, tel qu'il était normé en tout cas à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui, sa place sur la photo. Si vous deviez vous définir en musique, vous auriez une personnalité plutôt quoi, Pénélope Bagieux ? Vous êtes plutôt folk, pop, rock ?
Moi, je suis rock.
Rock. Ouais. Il y a un projet en cours et on terminera là-dessus, l'adaptation en bande dessinée du roman Sacrée sorcière de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, l'auteur de Mathilda ou encore du Bon Gros Géant, des sorcières qui ont fait fureur l'an passé avec l'essai, le bouquin de Mona Chollet. Les sorcières, c'est aussi comme ça qu'on montrait du doigt les femmes féministes qui se revendiquaient indépendantes. C'est pour ça que vous avez choisi d'adapter ce roman-là particulièrement de Roald Dahl. Vous aimez cette figure des sorcières?
Mais j'ai quelque chose d'assez ambivalent du coup, parce que c'est mon livre d'enfance de chevet qui m'a terrifiée quand j'étais petite et que j'adorais. Et j'avais aucun recul et aucun regard critique sur la représentation de la sorcière qui donc voilà, est une, en général dans la culture populaire est un écrochu et fait des potions. Jusqu'à comprendre plus tard que c'était simplement un mot pour qualifier les femmes érudites et indépendantes et qui faisaient peur à la société. Et effectivement, un modèle que les femmes se sont réappropriées, évidemment dans le livre de Mona Chollet que j'ai consulté pour écrire Sacrée Sorcière d'ailleurs. Mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de trouver justement un mélange entre ça. Le fait que la sorcière soit terrifiante et que ce soit aussi une image fascinante et très très rebelle comme ça, j'avais envie de garder ça. Je voulais que mes sorcières, je voulais qu'elles soient cool en fait, et à la fois qu'elles fassent très peur et en même temps, on peut plus aujourd'hui en 2020 dire aux enfants attention, méfie-toi, potentiellement toutes les femmes sont des sorcières. Donc il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus aussi, oui, bien sûr.
Voilà, Les sorcières bien aimées de Pénélope Bagieux et Les culottées. Toutes vos bandes dessinées, vos romans graphiques sont publiés dans la collection bandes dessinées chez Gallimard. En tout cas, Ces culottées et le California Dreamin' qu'on évoquait. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et grand félicitations pour ce prix. Bravo, bravo.